Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Face aux abus, il faut une conversion intégrale de toute la communauté. Des mots du pape François dans son message mardi aux participants à l'assemblée plénière de la Commission pontificale pour la protection des mineurs en cours à Rome. Le pape François, qui poursuit sa convalescence dans la maison Sainte-Marthe au Vatican, qu'on célébrant notamment des messes. Les chrétiens de Terre Sainte ont besoin de notre aide. C'est ce qu'a fait noter le cardinal Claudio Guggerotti, préfet du Dicaster pour les églises orientales. Il lance un appel en vue de la collecte du Vendredi Saint. 7 mois avant l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les évêques ivoiriens exhortent à préserver la stabilité nationale et à éviter tout conflit post-électoral. Vous aurez les détails dans l'actualité de l'Église. L'actualité sociale et politique en Afrique nous conduira notamment en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, en Éthiopie. Nous conclurons cette édition par notre rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
La prévention des abus n'est pas une couverture à étendre seulement sur les situations d'urgence. C'est l'un des fondements sur lesquels bâtir des communautés fidèles à l'Évangile. Des mots du pape François dans son message mardi aux participants à l'assemblée plénière de la Commission pontificale pour la protection des mineurs qui se tient à Rome du 24 au 28 mars. Fabrice Baguendekere nous en dit plus.
Tout en exprimant sa gratitude aux membres de cette commission pour leur précieux service durant ces 10 dernières années, le Saint-Père les encourage à enrichir leur travail avec des formations qui éduquent, des contrôles de prévention et une écoute qui redonne la dignité pour que chaque enfant et chaque personne vulnérable puisse trouver dans la communauté ecclésiale un lieu sûr. Le pape confie à la commission pour la protection des mineurs 3 tâches pour aider l'Église entière dans une conversion ecclésiale. La croissance dans le travail en commun avec d'autres dicastères de la curie romaine, savoir offrir aux victimes et aux survivants hospitalité et soins pour les blessures de l'âme, et chaque témoignage soit écouté avec cœur et miséricorde, et enfin construire des alliances avec des réalités extra-ecclésiales, avec des autorités civiles, des experts et des associations, afin que la protection des mineurs et des personnes vulnérables devienne un langage universel.
Merci Fabrice. Le pape qui, après son hospitalisation, poursuit la convalescence et le repos dans la maison Sainte-Marthe, sa résidence du Vatican. C'est ce qu'a déclaré la salle des presses du Saint-Siège mardi. Pour rappel, François est sorti de l'hôpital dimanche après 38 jours d'hospitalisation à la polyclinique Gemelli. Pour le moment, ses journées se passent entre thérapie médicamenteuse, physiothérapie motrice et respiratoire pour la récupération de la voix. Il a aussi des moments de prière personnelle et qu'on célèbre la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Le pape ne reçoit pas encore des visites et il n'y a pas encore des décisions sur les programmes des prochaines semaines, a précisé la salle des presses du Saint-Siège. Le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, s'est dit préoccupé par la violation systématique du droit international. S'exprimant lundi à marge du sommet sur la longévité au Vatican, parrainé par l'Académie pontificale pour la vie, le cardinal Parolin a souligné que les bombardements des civils et les assassinats des travailleurs humanitaires sont des actions contraires au droit humanitaire. Nous sommes très préoccupé par la violation systématique du droit international, a-t-il dit. Le cardinal secrétaire d'État a exprimé, au nom du Saint-Siège, sa préoccupation face à la reprise ou à la poursuite de tant de combats dans le monde. Il a mentionné la situation à Gaza. Le cardinal Parolin a aussi tenu à souligner que l'appel du pape est un appel à s'arrêter, à trouver des voies de dialogue et de paix. Les chrétiens des Terres Saintes ont besoin de notre aide. C'est ce qu'a fait noter le cardinal Claudio Guggerotti, préfet du Dicaster pour les églises orientales. Il lance un appel à toutes les églises en vue de la collecte du Vendredi Saint en faveur des lieux saints. Outre la solidarité, le dialogue est fondamental. Parfois c'est très difficile, mais cela sauve des vies, a fait comprendre le cardinal Guggerotti. L'encyclique Evangelium Vitae du pape Jean-Paul II est toujours d'actualité 30 ans après sa publication. pour Gabriella Gambino, sous-secrétaire du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, ce 30e anniversaire célébré mardi est très significatif. Le pape Jean-Paul II avait pressenti que les formes graves des violations de la vie des plus faibles n'étaient rien d'autre que l'expression d'une idée perverse de la liberté qui transforme les crimes en droits. Le temps est venu pour l'Église de construire une véritable pastorale de la vie humaine, a-t-elle déclaré. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit en Côte d'Ivoire. À 7 mois de l'élection présidentielle, les évêques ivoiriens expriment leur profonde préoccupation quant au climat sociopolitique qui prévaut dans le pays. Au siège de leur conférence à Abidjan-Cocody, ils ont délivré une déclaration lundi. Les prélats exhortent leurs concitoyens à préserver la stabilité nationale et à éviter tout risque de déstabilisation. « Nous ne voulons plus de conflits post-électoraux, plus de guerres, plus de morts », ont-ils clamé, appelant à la responsabilité de tous. Les comptes rendus de Marcel Ariston Blé.
Dans cette déclaration rendue publique par Mgr Marcelin Yao-Kouadio, évêque de Daloa et président de la conférence épiscopale ivoirienne, les évêques disent être inquiets de la météo politique actuelle dans leur pays, appelant à une prise de conscience collective pour éviter la répétition des tragédies du passé. Malgré ce tableau peu reluisant, les évêques ont exhorté la population à garder l'espérance et à ne pas céder à la fatalité. Ils ont insisté sur la nécessité impérieuse d'un dialogue inclusif entre toutes les composantes de la société afin que le scrutin à venir ne soit pas une nouvelle source de discorde, mais plutôt une occasion de raffermir l'unité nationale. S'adressant aux autorités en place, l'épiscopat ivoirien a plaidé en faveur de l'inclusion de tous les candidats à l'élection présidentielle, estimant qu'un processus électoral ouvert et équitable constituerait un levier décisif pour apaiser le climat politique et accélérer la réconciliation nationale. L'épiscopat a également exprimé ses vives inquiétudes quant à l'indépendance de la commission électorale indépendante, estimant que sa composition et son mode de fonctionnement actuel suscitent des doutes quant à son impartialité. Face à ces préoccupations, ils l'ont invité à respecter les normes les plus objectives de transparence et d'impartialité. Quant aux guides religieux, les évêques les ont invités à résister aux tentations du clientélisme politique, à préserver la paix en faisant preuve de dignité devant le marchandage financier électoraliste. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Au Tchad, plus de 600 membres du mouvement Réunoji et Mekong du Christ ont effectué pendant 3 jours leur pèlerinage pour marquer les temps des carêmes. Ils étaient au sanctuaire marial des Siaba de l'archidiocèse de N'Djamena. Édouard Takadji nous en parle.
Pèlerin de l'espérance, c'est le thème retenu par les membres de ces deux mouvements mariaux pour leur pèlerinage au sanctuaire marial des Siaba. Ces pèlerins sont allés durant les 2 jours pour se ressourcer, prier pour la paix dans leur pays, mais surtout prier pour la santé du Saint-Père, le pape François. Édouard Yandé, responsable du mouvement Réunoji, revient sur les buts fixés à travers ces pèlerinages.
Nous voulons, ensemble avec Jésus, cheminer pendant que lui, il était en train de souffrir. Après la souffrance, il va remporter la victoire sur le mal.
Le président de la sous-commission pèlerinage à l'intérêt de l'archidiocèse d'N'Djamena, l'abbé Marie Scradium, a lors de la célébration eucharistique pour clôturer les activités de ces pèlerinages, envoyé les pèlerins en mission dans leur milieu de vie.
Vous êtes comme des Moïse que le Seigneur vient appeler et qu'il envoie vers les autres. Ceux qui sont dans l'obscurité, ceux qui sont enchaînés par des soucis, par la vie, vous devez aller les libérer pour qu'ils participent à la joie. Ces chaînes-là sont pleines aujourd'hui qui nous empêchent de nous épanouir. Et nous avons la mission de construire cette famille que nous formons à travers ces deux mouvements. Nous faisons des choses qui ne reflètent pas l'image des enfants de Dieu. Et il sait que nous allons tôt ou tard nous convertir. Il sait que lorsque nous tombons, nous allons nous relever. Et il sait que lorsqu'on comprend qu'on est tombé, on se relève, on fait des démarches pour repartir. Et il nous accueille à bras ouverts.
Édouard Takadji, N'Djamena pour Radio Vatican.
Actualité sociale et politique en Afrique. Processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, les dirigeants des pays d'Afrique australe et de l'Est ont annoncé mardi avoir agrandi leur équipe de facilitateurs pour un processus de paix dans l'Est de ce pays. À l'issue d'un nouveau sommet virtuel des dirigeants régionaux lundi soir, une nouvelle équipe de facilitateurs a été nommée pour mener les négociations. Elle est composée de l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, de l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, de l'ancien président sud-africain Halema Mondlanthe, de l'ancienne présidente centrafricaine Catherine Samba Panza et de l'ancienne présidente éthiopienne Saleh Work Zewde. Toujours concernant la RDC, l'organisation Médecins sans frontières a averti mardi d'une recrudescence des atrocités marquée par des blessures atroces infligées aux civils dans la province de l'Ituri, dans le nord-est du pays, théâtre d'un long conflit. L'ONG rapporte que la majorité des victimes traitées entre janvier et la mi-mars dans sa clinique à Bunia, la capitale provinciale, étaient des femmes et des enfants. En février, les équipes médicales des Médecins sans frontières ont soigné des enfants âgés de 4 ans et des femmes enceintes blessées par des machettes et des balles suite à des attaques des milices qui ont parfois exécuté leurs proches, détaille l'ONG. En dépit de la désescalade entre les chefs du Front de libération du peuple du Tigré et les présidents de l'administration intérimaire du Tigré, les habitants de cette région du nord de l'Éthiopie continuent à redouter une nouvelle guerre, notamment entre le gouvernement fédéral et l'Érythrée voisine. Augustine Passili s'est rendue sur place.
Quelques 28 000 déplacés survivent depuis plus de 4 ans dans le camp d'Adi Mehamedai, installé dans la cour d'une école primaire. Malgré la fin de la guerre en novembre 2022, 1 million de riverains n'ont pas pu rentrer chez eux. L'ouest et le nord du Tigré restent en effet occupés par les milices Amhara et les troupes érythréennes. Pire, même si la perspective d'une guerre entre les soutiens du chef du Front de libération du peuple du Tigré et ceux du président de l'administration intérimaire semble écartée, la menace d'un autre conflit plane toujours, cette fois avec l'Érythrée voisine qui entretient des relations exécrables avec Addis Abeba. Parmi les résidents du camp d'Adi Mehamedai, Tewelde Birhan Gebresilassie a perdu une fille pendant la guerre et une autre a été blessée en combattant aux côtés des forces de défense du Tigré. Nous supplions les responsables politiques de ne pas déclencher un nouveau conflit et d'arrêter leur discours de haine, implore le sexagénaire. L'incertitude liée à l'éventualité d'une reprise des affrontements dissuade aussi les investisseurs comme Zafou Haile, qui revient tout juste d'Arabie Saoudite. La jeune femme explique vouloir monter sa propre affaire, peut-être une fabrique de savon, mais pour cela elle attend que la paix revienne véritablement. Addis Abeba, Augustine Bassi pour Radio Vatican.
Au Soudan, une frappe de l'armée sur un marché de la ville de Tora, dans les Darfour Nord, a tué des centaines de civils. L'annonce a été faite par les collectifs d'avocats qui documentent les violations des droits humains depuis les débuts de la guerre au Soudan en avril 2023. Depuis ces temps, le Soudan est le théâtre d'une guerre féroce que se livrent les paramilitaires des forces de soutien rapide, dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo, et l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhan. Au Soudan du Sud voisin, les partis du rival du président dénoncent de nouvelles frappes sur une de ses bases militaires près de la capitale Djouba, malgré les appels au dialogue. Lundi, le parti d'opposition SPLM-IO de Riek Machar a déclaré que son cantonnement militaire de Ounaliet, à environ 15 km de la capitale Djouba, avait été attaqué. Cet acte de provocation constitue une violation de l'accord de paix de 2018, a déclaré un porte-parole dans un communiqué. Un regain des tensions a été observé ces dernières semaines, notamment dans l'état du Haut-Nil, qui fragilise de plus en plus l'accord de paix de 2018. En Égypte, le Haut-Commissariat pour les réfugiés a annoncé mardi suspendre son aide aux réfugiés dans le pays, faute de financement, privant notamment de nombreuses personnes ayant fui la guerre au Soudan d'un accès aux soins médicaux essentiels. Le manque de fonds disponibles et la profonde incertitude quant au niveau des contributions des donateurs cette année ont contraint les HCR à suspendre tous les soins médicaux pour les réfugiés en Égypte, à l'exception des interventions d'urgence vitale affectant environ 20 000 patients, indique cette agence de l'ONU. Concluons cette édition avec la rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Christian Lossambé.
Ouvrons cette rubrique avec la Birmanie où, dans le contexte de la guerre civile qui sévit dans le pays, le cardinal Charles Mongbo, archevêque de Rangoon et président de la Conférence des évêques catholiques de la Birmanie, estime que l'unité du pays est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Au cours d'une messe célébrée la semaine dernière pour l'ordination épiscopale du nouvel évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Rangoon, le cardinal Bo est revenu sur la situation actuelle que traverse le pays, prodiguant quelques conseils conseil au tout premier évêque tamoul de Birmanie, Mgr Raymond Wai Lin Thun. Dans son allocution, le cardinal Bo a exhorté le nouvel évêque à créer un espoir de guérison pour le peuple birman blessé, soulignant que des milliers de personnes ont besoin de sa présence, de ses paroles et de son ministère de guérison. La cathédrale Saint-Pierre et Paul d'Oulan-Bator, capitale de la Mongolie, a un nouveau curé. Le père Dieudonné Mukadi, missionnaire de la Consolata d'origine congolaise, a été installé dimanche 23 mars en présence de nombreux fidèles qui ont manifesté leur joie. La messe a été présidée par le cardinal Giorgio Marengo qui a installé le nouveau curé. Affectueusement appelé père Dido, ce missionnaire de la Consolata originaire de la République démocratique du Congo est arrivé en Mongolie en 2016. Rappelons que les pères et sœurs missionnaires de la Consolata sont arrivés en Mongolie en 2003. Guidés par leur charisme d'évangélisation des non-chrétiens, ils œuvrent dans le service de consolation au peuple. Ces deux ailes apostoliques sont essentielles au sein de l'Église en Mongolie, un milieu où la majorité de la population est bouddhiste et chamanique, selon le père Dieudonné Mukadi. En Pologne, la date du 24 mars est symbolique. Ce jour-là, en 1944, les nazis ont tué Joseph Ulma, sa femme Victoria qui était enceinte, et leurs 6 enfants déjà nés, ainsi que les 8 juifs qu'ils avaient cachés. La famille Ulma a été béatifiée le 10 septembre 2023 à Markowa, leur ville. Depuis 2018, ils célèbrent la journée nationale du souvenir des Polonais qui ont sauvé des juifs pendant l'occupation allemande. Marie-Josée.
Oui, Christian, et en effet, le 24 mars 1941, il y a exactement 84 ans, le ghetto de Lublin a été créé en signe de haine envers les Juifs. La ville, qui est une communauté de culture et de religion intégrant des citoyens d'origine diverse, a été divisée. Une culture, une religion a été déchirée et enfermée derrière une clôture, telle que l'a déclaré le père Miroslav Kalinowski, recteur de l'Université catholique de Lublin, en ouvrant la conférence organisée par l'occasion par le centre Eschel de l'université. Les célébrations ont commencé par une messe dans l'archi-cathédrale de la ville de Lublin. Une exposition consacrée à la famille Ulma a ensuite été inaugurée. Des fleurs ont également été déposées devant la maison où vivait sœur Marta Wolowska, fusillée pour avoir caché des juifs dans les environs de Slonim. Nous nous souvenons de ceux qui, à leur risque et péril, ont été les juifs persécutés, a fait savoir le prêtre polonais. Il a également souligné que l'exemple des juifs héros cachés rayonne et nous encourage à ne pas avoir peur de sauver quiconque demande de l'aide dans la vie de tous les jours.
Merci Marie-Josée pour ces précisions. Toujours dans le continent européen, le cardinal président de la conférence épiscopale italienne a conduit le pèlerinage jubilaire de l'archidiocèse de Bologne le week-end dernier et a également exprimé sa joie pour le retour du pape François dans sa résidence vaticane. Marie-Josée, une fois de plus, c'est avec vous pour plus de détails.
Oui, et en effet, cette fois, c'est une nouvelle qui nous remplit de joie. C'est ainsi que le cardinal Zuppi a commenté la sortie intervenue dimanche 23 mars du pape François de la polyclinique Gemelli de Rome après 38 jours d'hospitalisation pour soigner une pneumonie bilatérale. Au cours de ce long séjour, écrit le cardinal dans une note, il nous a montré la bénédiction qui se cache dans la fragilité parce que c'est précisément dans ces moments que nous apprenons encore plus à faire confiance au Seigneur. Samedi dernier, dans l'après-midi, l'archevêque de Bologne a conduit la procession des pèlerins de Bologne le long de la Via della Conciliazione jusqu'à la basilique vaticane. Après avoir franchi la porte sainte, l'archevêque a présidé la messe à l'autel des confessions. Dans son homélie, le cardinal Zuppi a exhorté les fidèles à continuer à soutenir l'évêque de Rome par la prière, comme cela s'est produit au cours de 12 années de son pontificat.
Merci Marie-Josée, et c'est avec cette note que nous refermons cette rubrique qui a été consacrée aux prises de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique de Radio Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.